Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma, sinon rien.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour ce Sine qua non du mois de janvier qui portera plus exactement sur des films de la fin décembre et du début janvier puisque nous vous retrouverons assez tôt en février avec un programme à cheval sur janvier et février justement. Un petit programme éclectique comme d'habitude avec une dizaine de films comme d'habitude commentés en compagnie de Florence.
Bonjour.
Et Jean-Pierre.
Bonjour toutes et tous.
Adrien devait être parmi nous et puis suite à quelques péripéties, notre enregistrement a été décalé, donc nous n'aurons pas son avis en direct. En revanche, François Co nous a enregistré son avis sur quelques-uns des films du programme. Vous pourrez l'entendre à la fin de l'émission. On commence sans plus attendre avec le premier film de l'acteur Paul Dano, c'est Wild Life, une saison ardente.
Maman, papa va bien?
Bien sûr. Peut-être qu'il a été blessé dans son orgueil. Ça arrive parfois. Il a déjà été au chômage. Et à chaque fois, il arrive à s'en sortir. You said your love was true. And we'd never, ever part. Even though you hurt me like nobody else could ever do. Si tu as un meilleur plan pour moi, dis-le-moi. I would
never.
Peut-être sera-t-il préférable à ça.
Wild Life, une saison ardente, c'est donc le premier film de l'acteur Paul Dano. Il est encore programmé au cinéma Le Club. C'est l'adaptation du roman de Richard Ford, Une saison ardente, qui raconte l'histoire d'une famille américaine dans les années 60, vue à travers le regard du fils, qui est un adolescent, incarné par Ed Oxenbould dans le film de Paul Dano. Les parents sont eux incarnés par Carey Mulligan et Jack Giegenhale. C'est une famille qui est en train de se désolidariser. Le père a tendance à boire, il va de petit boulot et a du mal à en retrouver un suite à la perte de son dernier emploi. Il va donc partir combattre le feu. Alors je sais plus dans quel état des États-Unis ça se passe. Vous pourrez peut-être m'aider. Non, c'est pas le Montana.
Je sais plus.
Enfin bon, en tout cas, il part combattre le feu dans des montagnes, donc il part plusieurs mois. Pendant ce temps-là, la mère est obligée de se débrouiller toute seule. Elle aussi trouve un petit travail. Elle trouve un protecteur, on va dire aussi, entre guillemets. Et son fils adolescent, donc, qui est le narrateur de l'histoire, découvre tout ça avec tristesse, évidemment, puisqu'il voit ses parents qui s'éloignent, sa mère qui semble refaire sa vie. Voilà donc l'histoire de ce film, moi qui m'a laissé assez mitigée. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé, mais j'ai même du mal à donner mon avis finalement, parce que j'ai trouvé qu'il n'avait pas grand-chose d'exceptionnel, sans être inintéressant, mais il ne m'a pas vraiment émue. C'est ce qui me gêne un peu dans ce genre de film qui parle de sentiments, d'histoire de famille. Je suis restée assez froide, même si je ne vois pas bien quoi lui reprocher non plus. Hein. Les années 60 pardon, sont bien reconstituées, les acteurs sont impeccables. Voilà, donc je ne vais pas vous éclairer beaucoup, mais peut-être que Florence sera plus tranchée que moi.
Bah, moi aussi, j'avoue qu'il ne m'a pas laissé un grand souvenir, ce film.
Après... Il est sorti le 19 décembre, hein, on peut repréciser.
Oui, voilà.
On après... a vécu depuis, voilà.
C'est ça. Et néanmoins, après, je trouvais que c'était intéressant de voir vraiment le contexte des droits de la femme à l'époque. C'est vrai que ça permet de voir aussi le chemin qui a été parcouru. Mmh. Même s'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Et du coup, on voyait vraiment ce contexte où la femme doit demander l'autorisation pour travailler, etc., avec un homme qui est censé gérer la maison, mais qui gère rien du tout, et cette femme qui essaie de gérer les choses, mais sans en avoir vraiment le droit. Donc ça, c'était le côté un peu intéressant, je trouvais, du film. Après, c'est vrai qu'on voyait l'enfant qui était un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture. Il était...
c'est vrai.
Il avait un côté assez tétanisé, je trouvais, enfin, ouais, spectateur de sa vie, et c'est vrai qu'il avait aucun pouvoir d'action. En plus, je pense que c'est une époque où les enfants avaient également moins le droit de s'exprimer, oui, de donner leur avis, etc. Donc bon.
Ce qui peut paraître logique, mais ce qui ne le rend pas très sympathique, hein, du coup.
Non, pas trop, mais bon, enfin. Après, je trouve que c'était intéressant, mais c'est vrai que. Bon, je sais pas forcément si je vous conseillerais.
Allez, Jean-Pierre.
Bah voilà, non mais c'est le
Wildlife, une saison ardente.
Une saison ardente qui est pas ardente du tout, sauf le feu. Il y a une excellente séquence où le mari est sur le terrain. Il y a une forêt qui brûle. On entend simplement le bruit, le ronflement des flammes. Puis il y a un contre-champ et là on voit une immense forêt qui brûle. Ça c'est bien. Le reste c'est totalement transparent, quoi. Bien sûr que cette histoire peut être intéressante. Je dis peut ou pourrait être intéressante, mais là c'est tellement transparent, c'est tellement banal, que, et en plus le gosse qui est là un témoin privilégié, il a vraiment un regard de poisson et une tête de veau, quoi. Ça gâche totalement le faible intérêt que peut avoir ce film, qui encore une fois, c'est pas le sujet qui est à blâmer, mais c'est la façon. Alors tu dis que les acteurs sont excellents, oui peut-être, mais ils sont très transparents. Je veux dire, ils n'ont pas beaucoup de personnalité. Alors peut-être là encore, il faut dire, c'est l'époque, la femme est soumise à son mari, mais je trouve qu'on le voit pas vraiment, moi ça. Justement, ça pourrait être le sujet du film, ça pourrait être traité de manière très forte, mais ça l'est pas, quoi, parce qu'effectivement, le mari s'en va très vite, et il revient tout à fait à la fin du film. C'est plutôt la femme seule avec ce gosse qui la regarde avec ses yeux de Merlan Free, là, qui est l'essentiel du film. Alors voilà, je m'arrêterai là parce que je veux pas l'accabler, effectivement.
Ouais,
c'est pas un film
à accabler,
mais c'est quand même assez ennuyeux.
Sur le délitement du couple dans ces années-là, revoyez plutôt Les Noces Rebelles, hein, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. En tout cas, Wildlife, une saison ardente de Paul Dano, est encore programmée au club. On enchaîne avec un film d'un tout autre genre. C'est une nouvelle version de l'histoire de Vidocq par Jean-François Richer, L'Empereur de Paris.
C'est qui lui ?
L'évadé perpétuel.
Vidocq, monsieur.
On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine.
Moi, je vous dis, je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène.
Pour lutter contre des hommes comme ça. Vous devez connaître leur manière, leurs habitudes, leur monde.
J'ai oublié que vous étiez l'un d'eux.
Non, je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats, je peux vous les fournir.
Mais à quel prix ?
Ma lettre de grâce.
Ah bon ? Rien que ça ?
Un voleur reste un voleur.
Et les résultats restent des résultats.
Je me moque de savoir qui tu es.
Toi peut-être, d'autre part.
Je peux rendre des services en tenant une lettre de grâce, par exemple.
J'aime profondément votre conception de la France, Vidocq.
Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tout ça sera terminé ?
J'ai fait de nous les empereurs de Paris.
Il n'y aura jamais qu'un seul empereur.
Servir votre pays ou bien rester dans l'ombre et la médiocrité.
Il va vous falloir choisir, Vidocq.
Et oui, Vidocq, l'empereur de Paris, donc c'est Vidocq. Huitième film de Jean-François Richet, si j'ai bien compté. Le dernier en date m'avait fortement déplu, c'était Blutfazer, qu'il avait tourné aux États-Unis avec Mel Gibson. C'est lui à qui l'on doit les Mérines, ou Mesrine d'ailleurs.
Mesrine, hein, oui.
Avec Vincent Cassel, qu'il fait rejouer ici le rôle de Vidocq. Donc, à savoir que le personnage a été porté plusieurs fois à l'écran, j'ai compté au moins 6 films, hein, d'un film muet Vidocq, tout simplement en 1911, jusqu'au film de Pitoff, Vidocq aussi en 2001. Donc là, une nouvelle version, alors qui change de celle de Pitoff. On n'a pas du tout le petit côté fantastique que moi j'avais pas trop aimé dans le film de Pitoff. Donc je trouve celui-ci presque meilleur, mais pas forcément très intéressant non plus. Jean-Pierre n'a pas l'air d'accord avec moi, tant mieux. Je vous rappelle brièvement l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas le personnage. C'est un personnage historique, hein, François Vidocq, un homme qui s'est échappé de plusieurs fois de bagne et qui a été embauché par la police, hein, pour lutter contre la pègre à Paris, ce qu'il a plutôt bien réussi. Il avait demandé sa liberté en échange. Donc là, c'est effectivement Vincent Cassel qui l'incarne. Voilà, moi j'ai beaucoup de réserves sur ce film. J'ai pas passé un mauvais moment. Je peux pas dire que je me sois ennuyée, mais alors plus j'y pense, plus je le trouve mauvais. Il y a vraiment beaucoup de scènes pour moi qui ne fonctionnent pas, des acteurs qui jouent faux, à commencer par la jeune femme de qui s'entiche Vidocq et qui tombe tout de suite sous son charme d'une manière un petit peu trop abrupte, je trouve, pour qu'on y croit. Je crois que c'est Freya Mavor, cette jeune actrice. Après, il y a des seconds rôles qui sont très bien, comme Denis Ménochet en policier, mais il y en a beaucoup, beaucoup... qui ne m'ont pas convaincue. Il y a des scènes que j'ai trouvées absolument invraisemblables, des scènes de combat à n'en plus finir, alors avec apparemment une nouvelle technique de combat, alors je ne saurais pas vous redire le nom, mais Cassel et Richet ont travaillé là-dessus pour que les combats soient un petit peu chorégraphiés et différents d'habitude. Moi, j'avoue que ça ne m'intéresse pas des masses. Et voilà, au final, j'ai trouvé surtout que ce n'était pas du tout crédible. Et au lieu qu'il y ait cette atmosphère noire de ce Paris des bas-fonds dans la pègre et qu'on ait un bon film noir, je trouve qu'on a un téléfilm France 2 sur le personnage de Vidocq. Donc au final, je suis un peu déçue. Mais Jean-Pierre va me contredire.
Non, je vais te contredire. Moi, j'ai bien aimé ce film parce que je trouve que c'est une reconstitution quand même qui valait la peine d'être vue. Tu dis que Paris n'est pas représenté. Si, si, il y a beaucoup de scènes de marché avec des fous.
Pas qu'il n'est pas représenté, qu'on n'a pas l'obscurité, le côté sombre que j'aurais aimé dans ce genre de film.
Pourquoi ? Je veux dire, il fait jour aussi à Paris, même pour les assassins et les voyous. Hein. Il y a des scènes de marché avec des pickpockets, avec ces gens qui se croient, des lavandières qui lavent leur linge dans des canaux pourris, là, pollués. Je trouve que la reconstitution d'époque est assez bien fait et en plus le fait qu'un assassin, qu'un bagnard devienne le chef de la police, c'est quand même assez caractéristique et on comprend pourquoi Richet, qui a commencé avec des films très sociaux comme Ma Thésis va craquer, a voulu prendre ce film. Alors on peut être plus réticent sur le personnage de Vincent Cassel, qui fait effectivement du Vincent Cassel. Quand on voit les gravures de Vidocq, c'est un homme très, très costaud, très épais, très élégant, qui n'était pas tout à fait le Cassel hirsute qu'on voit dans le film. Mais moi, je ne trouve pas que les combats soient ni trop longs, ni trop mal faits. Il y a des combats, il y a un duel, il y a des combats à l'épée, il y a des combats, il y a des castagnes, enfin, tout ça est assez intéressant.
Ils sont très bien faits, trop bien faits.
Bah, je ne sais pas, non, mais chorégraphié. Bah oui, mais justement, il y a qu'à voir les films japonais. Les combats sont très chorégraphiés, c'est pour ça qu'on les aime. Et puis, il y a quelques personnages intéressants, comme celui de Fouché, qui est joué par un Fabrice Lucchini, comme ça, sinueux, côteleux à souhait, qui dit « Il ne faut pas confondre le peuple et la foule. Le peuple est souverain. La foule est là pour être manipulée et servir. » Ce qui rime avec les gilets jaunes, si on veut repasser dans le contemporain. Non, moi, j'ai trouvé que c'était un bon film historique, un bon biopic, qui est évidemment peut-être pas un chef-d'œuvre. Il faudrait la patte d'un réalisateur ou plutôt d'un auteur derrière qu'on ne sent pas ici. Mais moi, j'ai passé un bon moment, il n'y a pas de doute, avec justement la fin où Napoléon, parce que ça se passe à la fin de son règne quand même, disparaît comme ça dans la cour des Invalides et au milieu d'une foule de soldats. Il y a quand même quelques scènes ou séquences visuelles qui sont plus que jolies, mais qui sont très significatives.
Reconstituées en numérique, hein, d'ailleurs, pour le Paris de l'époque. Qui de nous deux vous aura convaincu ? Je ne sais pas, mais si c'est Jean-Pierre, eh bien, vous pouvez aller voir L'Empereur de Paris de François Richet au Pâté Chavant, par exemple. On enchaîne avec un film américain sur un personnage encore exceptionnel. C'est d'ailleurs le titre du film, Une femme d'exception.
Bienvenue à la faculté de droit de Harvard.
Je m'appelle Ruth Bader Ginsburg.
Qu'est-ce qui vous amène, mademoiselle Ginsburg? Vous occupez une place qui aurait pu être attribuée à un homme.
Il n'y a pas plus intelligente que toi. Tu n'as qu'à dire ce que tu sais.
Monsieur Fitzpatrick.
Il y a 8 jours, on m'a dit que les femmes étaient trop émotives pour être avocates.
Tu peux pas abandonner.
Un des recruteurs m'a dit qu'ils avaient engagé une femme l'an passé et qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils feraient avec deux.
Vous êtes furieuse? Tant mieux, servez-vous-en.
Il existe 178 lois qui font une différence sur la base du sexe. Il y a des lois qui interdisent aux femmes de faire des heures sup. Il doit y avoir le nom de nos maris sur nos cartes de crédit.
On n'est pas autorisé à...
On nous interdit de travailler dans les mines.
Tu parles d'une perte?
La question n'est pas là. On devrait avoir le droit.
Je voudrais convaincre les tribunaux fédéraux que ces lois sont anticonstitutionnelles. Je ne lis pas les affaires de droit fiscal.
Lis celle-là.
La loi stipule que la personne qui s'occupe d'un proche doit être une femme. C'est de la discrimination fondée sur le sexe contre un homme.
Alors, le juge a tort?
Monsieur Moritz, c'est la loi qui a tort.
Bande-annonce finie, donc un peu brutalement. C'était la bande-annonce d'une femme d'exception de Mimi Leder, biopic américain sur un personnage réel, hein, encore une fois. Plus connue sous le nom de Notorious RBG, c'est Ruth Bader Ginsburg, qui est une des rares femmes, qui a aujourd'hui 85 ans, hein, et qui est une des rares femmes à siéger la Cour suprême, hein, l'une des 4 femmes seulement qui ont occupé ce poste au cours de l'histoire américaine, l'une des plus grandes figures progressistes des États-Unis. Elle a cofondé un projet pour les droits des femmes au sein de l'Union européenne pour lutter contre les libertés civiles. Elle s'est impliquée dans plus de 300 procès pour discrimination. Et un documentaire lui a été consacré d'ailleurs en 2018. Donc voilà un beau personnage évidemment. Le film était tout trouvé avec sa vie. Sauf que c'est vraiment une femme d'exception, comme le dit le titre. C'est-à-dire qu'elle n'a absolument aucune zone d'ombre. Tout ce qu'elle fait est parfait. En plus, elle est jolie. C'est Felicity Jones qui l'incarne, avec Armie Hammer à ses côtés pour jouer son époux. Donc elle est parfaite, elle mène ses études et celles de son mari en même temps parce qu'il est atteint d'un cancer des testicules et qu'il est donc en traitement. Alors elle prend les cours pour lui, pour elle. En même temps, elle élève leur enfant. Elle réussit à obtenir son diplôme d'avocate, à moitié à Harvard, à moitié à Columbia. Alors c'est son histoire réelle, hein, apparemment. Et donc, elle s'en tire toujours, évidemment. Aucun cabinet d'avocat ne veut l'embaucher parce que c'est une femme. Mais au final, avec ce procès pour une discrimination contre un homme, elle arrive à se faire connaître et à finalement exercer son métier. Tout ça est apparemment vrai, mais c'est vrai que c'est un film du coup qui est très linéaire, devant lequel on s'ennuie même un peu parce que cette femme, encore une fois, va toujours dans le même sens, réussit toujours tout. Alors, c'est un petit peu ennuyeux, finalement, même si c'est chouette de voir qu'une femme a pu s'imposer comme ça, faire évoluer les droits de la femme aux États-Unis. Mais bon, c'est peut-être parce que c'est son neveu, le neveu de Ruth Bader Ginsburg, qui est au départ de ce film. Alors, peut-être que son point de vue n'était pas très objectif, je ne sais pas. Donc, bon, j'ai quelques réserves sur ce film. Florence?
Eh bien, moi, comme aurait pu dire Adrien, j'aurais aimé ce film. Donc, ouais, pareil, en fait, je me suis beaucoup ennuyée. Enfin, les films qui se passent dans les tribunaux, d'une façon générale, m'ennuient. Et celui-là fait pas exception. Il est vraiment, en effet, très classique. Et pourtant, ils ont essayé de casser un peu le rythme du tribunal avec pas mal de scènes de famille, etc. Mais néanmoins, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dedans. Et pourtant, le sujet est donc vraiment intéressant. Et c'est vrai que c'est incroyable de voir ce qu'elle a pu faire à partir uniquement d'un cas où voilà, il fallait que ce soit un homme qui soit lésé pour pouvoir mettre en avant la discrimination. Parce que là, ça devient inacceptable si c'est un homme qui est lésé uniquement. Donc ça, c'était un côté intéressant. Et de se dire que c'est réellement comme ça que ça s'est passé en plus. Mais, ouais. Mais voilà.
Ah, tout le procès m'a intéressé justement, contrairement à toi. Parce que j'ai trouvé que ce cas était intéressant. La manière de chercher dans la loi, comment on peut traiter ça et la faire évoluer. Ça m'a bien plu. Oui,
oui, bah, c'est vrai que je suis moins sensible quand je les vois s'extasier en cherchant des articles et en lisant des...
C'est pas très cinématographique, c'est sûr.
Voilà, c'est ça. Donc bon, c'est tout ce que j'ai à dire du coup sur le film.
Bof, également.
Ouais, non.
Non, ne vous inquiétez pas, on a du mieux dans le programme.
Oui,
après.
Voilà.
Jean-Pierre, une femme d'exception.
Oui, oui, bah, bof. Quoi, c'est tellement lisse, il n'y a pas un poil qui dépasse. Bon. C'est une femme d'exception. Mais le film n'est pas exceptionnel parce qu'il dit rien en fait. C'est un livre d'images sur papier glacé Et paradoxalement, alors qu'on devrait s'intéresser à cette femme, on ne s'intéresse pas du tout parce qu'elle est, elle est photographiée en technicolor, et puis voilà, et puis c'est tout. Quoi. On la voit évoluer, et encore que le film ne comprend pas, ne s'étend pas sur toute sa vie, loin de là. La scène du procès, moi, je l'ai trouvée très ennuyeuse, et ce qui précède est aussi ennuyeux. Donc, je ne vois pas beaucoup, je ne vois pas vraiment ce qu'on pourrait en sauver. Quoi. C'est très bien de faire des films sur les femmes qui s'en sortent ou qui ne s'en sortent pas d'une manière accusatrice. Mais il faut que le film soit bon, quoi. Il faut qu'il vous empoigne, qu'il vous prenne aux tripes, ce qui n'est pas du tout le cas de celui-là. Quoi. Voilà.
Bon, au cas où vous ayez quand même envie de voir Une femme d'exception de Mimi Leder, sachez qu'il passe encore à la nef. Après Une femme d'exception, nous allons passer à un homme fidèle. C'est Louis Garrel qui l'a réalisé.
J'ai vu la sœur de Paul comme elle a changé.
Qui ça ?
Je suis Eve, la sœur de Paul.
Oh là là, écoute. Ah oui, je sais pas, peut-être, ouais.
Au cimetière, elle te lâchait pas les yeux.
Je voudrais Abel. Au fond, tu l'aimes pas. Alors je te le demande. Laisse-le-moi.
Et si moi je te dis non?
Alors c'est la guerre.
Tu t'entends bien avec Abel, toi?
Abel, je l'aime pas. Parce qu'il a volé ma mère. Papa, c'est maman qui l'a tué.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Et comment elle a fait?
Avec du poison.
Est-ce que je te plais?
De quoi tu me parles, là?
Et si tu faisais l'amour avec elle? Je sais très bien qu'elle t'attire.
Si je couche avec Eve, est-ce que ça veut dire que je dois vivre avec elle?
Bah, ça m'en a tout l'air.
Ah non, ça c'est parce qu'elle m'a dit de prendre quelques affaires, tu vois.
Il paraît que tout le monde un jour a eu envie de tuer quelqu'un.
Toi, par exemple, t'as déjà eu envie de tuer quelqu'un?
Oui, toi.
La bande-annonce nous a fait sourire. C'est L'Homme fidèle, le deuxième film de Louis Garrel après Les deux amis. Il s'est bien entouré là de Laetitia Casta et Lily Rose Depp, la fille de Johnny et de Vanessa Paradis. Une histoire de trio amoureux, vous l'avez compris, deux femmes, Laetitia Casta donc, qui incarne Marianne, qui est l'ex d'Abel, le héros incarné par Louis Garrel lui-même. Ils sont séparés depuis 10 ans. Ils se retrouvent, Abel veut la reconquérir, mais entre-temps, elle a eu un fils d'un autre homme. Et cet autre homme avait une jeune sœur, apparemment, qui est donc la tante du fils, Eve, qui a bien grandi, qui est incarnée par Lily Rose Depp et par qui Abel va être attirée. Voilà donc ce trio amoureux que Louis Garrel met en scène dans un film que je n'ai pas vu, qui m'aurait bien plu, je pense, vu la bande-annonce.
Tu fais de la drille, là, voilà.
Je fais de la drille, ben non, je ne sais pas, j'essaierai d'aller le voir, il passe au Méliès. Adrien devait être là pour débattre avec Jean-Pierre, donc je ne sais pas ce que Jean-Pierre va nous en dire, mais s'il a aimé, je suis sûre qu'Adrien aurait détesté. Jean-Pierre,
pas
alors...
Pas forcément, oui, ben oui, moi j'ai beaucoup...
As-tu aimé ?
J'ai beaucoup aimé, c'est un de mes 2 ou 3 films du mois. Ah. Je l'ai aimé parce que c'est vrai que c'est un film très nouvelle vague, qui rappelle la nouvelle vague, et moi je suis assez vieux pour avoir aimé la nouvelle vague, celle de Godard, celle de Jean Eustache,
mais
celle de Truffaut
aussi.
Bien sûr, j'espère bien, mais celle de Truffaut aussi, et ça rappelle beaucoup, par une voix off insistante, ça rappelle beaucoup les films de Truffaut qui adoraient la voix off, et puis ce côté de badinage amoureux qui est un petit peu drôle, un petit peu tendre, un petit peu pervers, fonctionne très bien, ça vient aussi des interprètes, hein, puisque Louis Garrel et Laetitia Casta, on le sait, sont en couple maintenant, bravo pour eux, on est bien contents, et c'est filmé de manière très simple, il y a des changements de ton continuels, mais qui passent merveilleusement bien. C'est filmé dans un petit quartier de Paris, comme ça, qu'on redécouvre avec plaisir. Enfin, c'est un badinage qui fonctionne parfaitement, qui n'est pas niant-niant.
Pas trop intello parisien.
Pas trop intello parisien, justement, parce que les dialogues sont à la fois drôles et puis je vous avais souri en écoutant la bande-annonce.
Oui.
C'est déjà bien, c'est une bonne nouvelle pour le film. Donc moi, je ne vois pas ce qu'on pourrait reprocher à ce film qui marque effectivement Louis Garrel, qui l'installe comme réalisateur, ce que son précédent film, son premier film, m'avait pas convaincu. Mais là, c'est parfaitement bien fait. Et on aimerait justement retrouver ce personnage, de même que chez Truffaut, retrouvait Jean-Pierre Léo dans une série de films. On aimerait retrouver le personnage de Louis Garrel, le mûrissant, quittant sa femme ou la retrouvant, dans une série de films qui se feront peut-être et que j'irai voir avec un grand enthousiasme.
Merci pour cet éclairage, Jean-Pierre. Donc, L'homme fidèle passe au Méliès. Vous pouvez encore aller le voir. Et on va enchaîner avec un film japonais qui est lui aussi finalement une histoire de trio amoureux. C'est Asako 1 et 2.
Ryohei no koto suki ya de. Dou shitara ii ka wakaran gurai suki ni natte shimatta. Watashi wa marude imo yume wo mite ru yona ki ga suru.
これと結婚せえへんか。良平さんを知ってるの？知ってるわけがないや。言うつもりでいる。けど私、良平に言うてないことがある。朝ちゃん。
Asako 1 et 2, film japonais de Ryusuke Hamaguchi. Alors attention, vous me pardonnerez pour l'accent. Avec Masahiro Higashide et Erika Karata. Adapté d'un roman de l'écrivaine Tomoka Shibazaki. Ça y est, c'est bon, j'ai tout dit. C'est l'histoire d'un grand amour entre une jeune femme, Asako, et un jeune homme. Ils se rencontrent quand ils sont étudiants. Lui est assez spécial, assez évaporé, on va dire. D'ailleurs, il s'évapore parfois dans la nature, puis il ressurgit quelques jours plus tard sans qu'on sache bien ce qu'il a fait. En tout cas, elle est complètement amoureuse de lui. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une passion. Sauf qu'un jour, il disparaît vraiment pour de bon, en tout cas pendant pas mal d'années. Entre-temps, elle rencontre son sosie, dont elle tombe amoureuse. Donc là, on se dit, tiens, on va basculer dans un film fantastique, parce que c'est le même acteur qui incarne les deux rôles masculins. Et puis finalement, non, c'est vraiment un autre jeune homme. Il n'y a vraiment rien de mystérieux. Il a juste une forte ressemblance avec le premier. Donc tout va bien, ils se mettent en couple, ils sont prêts à se marier. Mais là, le premier amant ressurgit. Je ne vous en dis pas plus pour vous garder un petit peu de suspense. En tout cas, moi, c'est un film...
Tu en as dit beaucoup déjà, oui.
C'est vraiment dans le synopsis qu'on peut lire quand on va sur Internet, où c'est vraiment le pitch du film. Donc, j'en ai pas dévoilé plus. En tout cas, moi, c'est un film qui m'a profondément ennuyée. Je sais que Jean-Pierre s'est ennuyé aussi. Nous l'avons vu ensemble. Et voilà, on a failli s'endormir, mais on a tenu bon.
Tout juste, quand
même.
Moi,
l'histoire ne m'a absolument pas intéressée. J'ai trouvé que ça manquait totalement de passion, ce qui est dommage pour une histoire d'amour. J'ai pas vu l'intérêt en fait de cet homme qui ressemble au premier amour. Voilà, j'aurais préféré que ça bascule carrément dans le fantastique ou alors je sais pas ce que j'aurais voulu, mais alors j'ai pas trouvé la photo très très belle non plus. Bon, c'est pas un beau Japon qui nous est montré, c'est des quartiers pas très reluisant de Tokyo. Quand on voit la nature, bah, c'est des endroits un peu désenchantés aussi. Bon, moi, je n'ai trouvé aucun intérêt à ce film, Asako, donc, de Ryusuke Hamaguchi. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre, puisque je pense que Florence, derrière, essaiera de le sauver tant bien que mal.
Ça va être dur quand même, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, j'y suis allé, en fait, parce que les critiques qu'on lit, n'est-ce pas, avec intérêt.
Oui.
On comparait le film à Vertigo d'Hitchcock, qui pour moi est le chef-d'œuvre absolu et d'Hitchcock et du cinéma. Alors que là, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, on ne sait pas pourquoi, effectivement, elle tombe amoureuse de ce type qui n'est pas très intéressant. Elle ne l'est pas non plus, d'ailleurs. Qui disparaît au bout d'un quart d'heure de film et qui revient juste avant la fin. Elle retrouve... Bon, il ne faut pas en dire trop, mais peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on n'en dit pas, parce que c'est vrai qu'on se désintéresse totalement de ces personnages. Il pourrait y avoir une ambiance fantastique, peut-être. Il pourrait y avoir un aspect critique, effectivement, de la vie banale des tokyoïtes et des banlieusards tokyoïtes moches. Mais le réalisateur n'en fait rien, quoi, du tout. Quoi. Il filme ça de manière banale, dans des couleurs pisseuses, avec des interprètes. C'est pas social, des interprètes qui sont très atones. Là, ça arrive souvent, malheureusement, dans les films japonais où on peut apprécier et ô combien les films historiques, les films de bagarre. Mais quand le film japonais tombe dans le contemporain, c'est souvent très difficile à accepter cette façon d'être. Quoi.
Oui, très, qui est peut-être vraiment trop différent voilà, de la nôtre, qui est très différente, bien moins expressive quoi, que notre manière d'être européenne.
Sauf quand c'est bon, des réalisateurs d'une autre taille que ce Hamaguchi. Quoi, voilà.
Mais quand même, dernièrement, on a vu Une affaire de famille qui avait obtenu la Palme d'Or et moi qui m'a beaucoup plu avec aussi cette ambiance japonaise assez lente, etc. Donc là, pour moi, c'est raté. Pour toi aussi, Jean-Pierre. D'ailleurs, le film est en sélection officielle du Festival de Cannes 2018. Il n'a pas obtenu de prix, mais... Allez, Florence, vas-y, donne envie aux auditeurs maintenant. Bon courage.
Bon, alors moi, je pense que vous êtes passé à côté du film. Parce que du coup, c'était pas ça le sujet pour moi. C'était vraiment d'abord cette histoire d'amour où ils ont très bien filmé. J'ai trouvé le coup de foudre, où on voit vraiment le temps qui se suspend. Le fait qu'elle, dès qu'elle le voit, en fait, c'est électrique. Elle le suit, elle peut pas s'empêcher de le suivre. Elle est vraiment attirée par lui. À un moment, quand leurs regards se croisent, le temps s'arrête, il y a les pétards, c'est très magique ce moment-là. Et là, à partir de là, ça y est, ils sont tout de suite amoureux, tout de suite, la passion commence, tout de suite, au premier regard.
Et alors là, ils n'ont aucune expression, ce qui montre bien qu'ils sont passionnément amoureux.
Ils s'embrassent, c'est déjà pas mal quand même pour des gens qui se rencontrent en moins de 10 minutes. Enfin bon, et donc ensuite, alors je pense qu'aussi ça c'est plus le côté de la culture japonaise avec le poids des promesses, le fait de donner sa parole, etc. Et il s'était engagé à ne jamais la quitter et de rester avec elle. Donc il y a ça aussi qui a beaucoup joué dans le fait quand il lui a dit « je reviendrai toujours ». Et ça, c'est le côté qui fait qu'en effet, oui, il s'absentait, mais il revenait, etc. Et il était fidèle à ce qu'il avait dit quelque part. Donc voilà, et après quand il y a le nouveau... Enfin, le sosie qui débarque, elle le fuit d'ailleurs, parce que quand elle comprend que c'est pas lui, elle va tout de suite essayer de s'en éloigner au maximum, et c'est l'autre qui va s'accrocher à elle et qui va la courtiser jusqu'à finalement elle cède et elle tombe amoureuse de lui pour qui il est. Mais du coup, là, il y a eu une séduction. Ça n'a pas été quelque chose comme ça de mécanique, de magique, un peu du coup de foudre qui tombe d'un coup comme ça. Donc moi, j'ai trouvé que c'est ça qui était intéressant, c'était de voir les deux différentes façons de tomber en amour, que ce soit par le coup de foudre d'un coup ou
avec un peu d'effort.
Avec un peu d'effort, voilà, etc.
Il faut se forcer un peu parfois.
Non, mais voilà, pour moi, c'était tout ça l'histoire en fait.
Oui, non, mais c'est vrai. Mais comme quoi, on peut être intéressé ou non par la même histoire.
Et j'ai pas trouvé ça lent. C'était un rythme qui est certes un peu lent, mais comme dans tous les films japonais, c'est un rythme particulier, on va dire, mais qui laisse justement le temps de voir les paysages, de voir les émotions. Il faut vraiment être attentif pour voir leurs expressions, mais elles sont là.
Donc, il faut accepter de se laisser bercer. Et bon, parfois, on entre dans l'univers et parfois, non.
Oui,
quelque chose à ajouter encore, Florence
ou... Non, ce sera tout.
Alors, c'est donc Asako 1 et 2 de Ryuzuke Hamaguchi. Voilà,
on a vraiment envie d'aller voir le film dont tu as parlé, mais c'est peut-être pas celui qui est projeté.
C'est peut-être pas le même. Non, on plaisante. On va passer maintenant à un autre film, alors très, très, très particulier. Allez, je ne vous en dis pas plus, on écoute la bande-annonce, c'est Border.
Kan man verkligen lukta hur folk känner?
Ja.
Skam. Skuld. Vrede. Jag kan känna sånt. Vem är du?
Vem vilka du inte känner till? Om du är annorlunda än andra så är det för att du är bättre än dem.
Jag hade fantasier om att Elbo brukar dansa här. Som i sagorna.
Border, donc d'Ali Abbasi, réalisateur suédois mais d'origine iranienne. C'est son deuxième film, Border, après Shelley, qui était sorti en 2016. C'est l'adaptation d'une nouvelle de l'auteur suédois John Avide Lindqvist, auteur de « Laissez-moi entrer », dont le film Vampire Morse était tiré. Voilà donc pour toutes les infos sur ce film qui a obtenu le prix Un Certain Regard au Festival de Cannes 2018. Et c'est vrai qu'on a vraiment un certain regard, un regard très particulier dans ce film centré sur Tina, qui est une douanière alors au visage vraiment monstrueux, on peut le dire. L'actrice a dû subir 4 heures de maquillage à chaque fois avant de tourner pour lui déformer le visage comme ça. Elle a pris 20 kilos pour le rôle aussi. Tina donc est une douanière en Suède. Elle a un flair incroyable, mais alors je parle pas au sens métaphorique, hein, c'est-à-dire qu'elle renifle vraiment les gens et c'est plus qu'un odorat même, parce qu'elle est à la fois capable de trouver de la drogue sur quelqu'un comme un chien, mais elle est aussi capable de flairer la culpabilité chez les gens. Et par exemple, elle va trouver sur quelqu'un une petite carte SD ou puce, ou je sais pas, sur laquelle il y a des films pédophiles, voilà, pour vous donner un exemple. Donc tout se passe très bien pour elle, elle est bien intégrée dans la société, on utilise ses talents à la douane, jusqu'au jour où Vore, un homme qui a à peu près la même apparence qu'elle, hein, mais en homme donc, Vore incarné par Hero Milonov, qui lui aussi pour le rôle a pris 20 kilos et qui lui aussi s'est fait maquiller pendant 4 heures, est un petit peu bizarre. Lui semble avoir aussi des facultés hors normes, mais qu'il utilise plutôt de manière maléfique vis-à-vis des hommes, tandis qu'elle est plutôt, comme je vous l'ai dit, intégrée et dans l'idée vraiment d'aider la société. Cet homme va tout bouleverser chez elle, elle va s'interroger sur elle, sur son identité. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Je pense que j'en ai déjà pas mal dit. C'est un film qui ne laisse pas indifférent. Je pense que si vous allez le voir, vous l'adorerez ou vous le détesterez. Moi, il me fait me poser plein de questions. J'ai plutôt aimé, hein. J'en suis sortie interloquée. J'avoue que j'ai été tenue en haleine jusqu'au bout. C'est tellement un ovni qu'on se demande dans quel sens ça va partir, comment ça va se terminer. On a d'ailleurs longuement débattu avec Florence sur la nature du film. Est-ce fantastique ? Le réalisateur, lui, parle de réalisme merveilleux. J'ai trouvé que la formule était jolie.
C'est poétique.
Oui, parce qu'on est dans un univers réaliste avec des moments merveilleux. Il y a de très belles séquences en nature, dans les bois, sur un lac. Les personnages principaux sont très proches de la nature. C'est pour moi une jolie parabole hein, sur l'humanité, sur ce que c'est que la nature humaine, sur les limites justement de notre humanité. C'est un film que je recommande et que vous pouvez voir au club. Je pense que Florence, cette fois, va aller dans mon sens.
Oui, complètement. Moi, c'est mon gros coup de cœur du mois. J'ai vraiment adoré ce film. Et j'ai trouvé qu'il était donc très original. On ne peut jamais deviner ce qui va se passer, contrairement à beaucoup de films où c'est quand même assez convenu. Là, vraiment, on est hors de tout sentier classique, quoi. Et ça bouleverse tous les codes de la normalité. Ça fait s'interroger sur ce que c'est que la normalité. Parce que là, bon, on peut dire, OK, on connaît la normalité d'un point de vue humain, à peu près. Mais là, justement, est-ce qu'on est dans un contexte d'humain ou pas ? Est-ce que ce qu'ils font, c'est normal ou c'est pas normal ? Et il y a cette animalité, on va dire, du coup, qui est douce et naturelle, qui est présentée, où on peut voir ces personnages évoluer et revenir à leur nature profonde, justement. Et enfin, j'ai trouvé que c'était très, très sensible. Ça m'a beaucoup touchée de voir aussi voilà, cette façon qu'ils avaient, leur sixième sens, leur osmose avec les animaux, le fait qu'elles soient capables, par exemple, l'héroïne de s'arrêter sur la route pour laisser passer un troupeau de biches alors qu'ils sont pas encore arrivés. Mmh. Enfin voilà, c'est un peu comme tous ces animaux qui peuvent s'envoler avant un tsunami.
Ouais.
Ça m'avait pensé un peu à tout ça et c'était en plus fait voilà avec beaucoup de poésie et en effet, il y a on voit le côté donc bien intégré voilà de l'héroïne, on voit l'autre Vore qui est en effet différent et qui lui est peut-être un peu plus vindicatif envers les hommes. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant, en tout cas. Moi, je vous le conseille vraiment.
Oui, on vous conseille toutes les deux d'aller le voir, Border d'Ali Abbasi. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques scènes un peu monstrueuses, sans en dire trop. N'emmenez pas de trop jeunes enfants, même s'il n'y a pas d'interdiction sur le film. Je pense qu'on peut aussi le trouver un peu invraisemblable, se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de femme là, qui renifle des téléphones portables. Donc, je pense qu'on peut aussi bien trouver ça épouvantable. Mais voilà, nous, il nous a plu, il nous a vraiment fait nous interroger. Jean-Pierre, je ne sais pas si ça te donne envie d'aller le voir.
Oui, ça me donne envie de le voir, oui. Effectivement, oui, mais on ne peut pas tout voir, c'est ça le problème.
Oui. En tout cas, donc Border d'Ali Abbasi passe encore au cinéma Le Club. On enchaîne avec un film qui, lui aussi, flirte avec le fantastique. C'est l'heure de la sortie de Sébastien Marnier.
Je vais remplacer M. Capadis pendant quelques semaines.
Alors je vous demanderai de l'accueillir avec bienveillance et gentillesse, hein, comme vous savez le faire.
Les élèves de la 3e 1 ont obtenu la meilleure moyenne de l'académie ces 4 dernières années.
Quel âge est-ce que vous avez ?
J'ai 40 ans.
Mais du coup, pourquoi est-ce que vous êtes encore suppléant ?
Je vous demanderai d'être particulièrement attentif à leur cas.
On regarde ce qu'ils ont répondu à la question 8.
Quel métier voudriez-vous exercer ? Manutentionnaire, hôtesse de caisse, femme de chambre, professeur suppléant. Tiens, ça c'est pour toi, c'est dans ta gueule.
Allô ? Allô ?
Il y a déjà eu des problèmes ?
Ils ont toujours été très proches, très solidaires même.
C'est des ados, c'est tout, il faut que tu comprennes ça. Ils aiment bien tester leurs limites.
Qu'est-ce que vous préparez ?
Vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose dans votre vie ? C'est pour combler un vide ?
C'est fini vos conneries là !
Pourquoi vous faites ça ?
Vous voulez pas voir la vérité en face ?
Il n'y a plus d'avenir.
Lors de la sortie, c'est le deuxième film de Sébastien Marnier, réalisateur français, donc, après Irréprochable, dans lequel Marina Foy s'est incarnée une femme assez inquiétante. J'avais trouvé qu'il y avait déjà de bonnes choses dans ce film. Il y a encore de bonnes choses, je trouve, dans Lors de la sortie, qui est, on peut dire, une sorte de thriller avec des aspects un petit peu fantastiques. Plein de bonnes choses, et puis plein de choses aussi que je trouve un peu tirées par les cheveux, ou en trop. Ou... Je trouve qu'il aurait peut-être dû resserrer son intrigue. En tout cas, vous l'avez compris que la bande-annonce, c'est l'histoire d'un professeur qui fait une thèse et puis qui du coup en attendant est remplaçant. Il intègre le précieux collège de Saint-Joseph, établissement privé, avec une classe entre autres de génie, on va dire, une classe de troisième avec des élèves qui ont déjà le niveau pour passer le bac et qui le prennent de haut, vous l'avez entendu dans la bande-annonce. Ce professeur, il est incarné par Laurent Lafitte qui est comme toujours très bien, enfin, en tout cas à mon sens. Très vite, il se rend compte que ce collège est bizarre. Tout le monde est bizarre. Tout le monde a quelque chose d'un peu surprenant, que ce soit les collègues, l'administration. Personne n'a l'air de s'inquiéter de cette classe de surdoués qui est elle-même très bizarre. En fait, tout paraît normal pour tout le monde, sauf pour ce personnage et pour nous, les spectateurs, qui découvrons les choses de son regard et qui ne comprenons pas non plus ce qui se passe dans cet établissement, dans lequel, je n'ai pas précisé, l'un des professeurs s'est suicidé en se jetant par la fenêtre sous les yeux de cette fameuse classe de génie. Et c'est ce professeur que remplace le héros incarné par Laurent Lafitte. Donc moi, toute cette intrigue-là, je la trouve très très bien. Il y a un côté un peu inquiétant, on se demande dans quel sens ça va partir. Ça m'a même rappelé carrément des films d'horreur comme Le village des damnés ou avec ces enfants un peu inquiétants là, qui surgissent, qui ont l'air de tous se liguer contre leur prof. Donc ça, c'est très bien. Après, il y a un deuxième fil de conducteur dans le film qui m'a déplu et je pense que je peux en parler sans révéler la fin. Mais dès le début du film, il y a des plans très appuyés sur une centrale nucléaire qui est à côté de l'endroit où est l'établissement. Et Ça revient comme un leitmotiv. Voilà, jusqu'à ce que se passent d'autres événements que je ne dévoilerai pas, que Jean-Pierre ne dévoilera pas non plus.
C'est à voir.
Et je trouve que le film s'égare un peu avec cette piste-là, alors que si on était resté sur cette relation vraiment très tendue entre le prof et ses élèves, ça aurait juste été très bien. Mais là, bon, il en a rajouté. Il y a des séquences aussi, il y a des cafards qui commencent à sortir de l'appartement du héros. Bon, voilà, il y en a un petit peu trop, je trouve. Ce qui, pour moi, a gâché un peu le film. Jean-Pierre, Lors de la sortie.
Ah oui, Lors de la sortie. Non, c'est un de mes deux films, deux coups de cœur du mois, parce que c'est non seulement un thriller sur un prof qui est mal à l'aise avec ses élèves, mais c'est un film qui est profondément engagé, si je peux dire, sur le désenchantement du monde, parce que c'est un film très écologique. On le voit, il y a des tas de séquences très caractéristiques, non, pas seulement ces plans récurrents sur les tours de refroidissement d'une centrale nucléaire, mais sur la différence de point de vue entre les jeunes élèves qui ont effectivement 15-16 ans et qui savent ce qui va se passer. C'est des élèves no future pour eux, no future. Parce qu'il se passe des cassettes où on voit constamment tout ce qui peut arriver, la mer couverte de pétrole, etc., les montagnes d'ordures qui envahissent les plages et tout. Et c'est ce qui fait l'intérêt du film, c'est que ces enfants ont prévu ce qui va se passer, alors que les adultes, pas du tout. Et caractéristique de film, effectivement, le personnage de Pierre Hoffman, qui fait une thèse sur Kafka. Il y a 5 millions des thèses sur Kafka, donc ce n'est pas très original.
Les petites bêtes.
En plus, on se doute bien qu'il ne va pas l'achever. Il est homosexuel, mais très mal dans sa peau, parce qu'il n'accepte pas vraiment son homosexualité. Donc, il y a cette différence que je trouve montrée très subtilement dans ce film, entre la lucidité des enfants qui voient bien que le monde est foutu et les adultes qui ne le voient pas du tout. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce film. Et je trouve que la fin, que je ne dirai pas, mais qui t'a pas plu, est très logique, parce que bon, il se passe ce qui doit effectivement se passer.
Trop logique. Non, justement. C'est-à-dire que je trouve qu'on nous l'annonce trop.
Ah ben oui, mais justement, on l'annonce et puis on ne sait pas si ça va arriver, mais finalement, ça arrive.
Je pense que vous avez tout compris.
Oui, oui. Et la dernière séquence est vraiment très caractéristique, parce que ça se passe sur
un bord d'un lac
avec des gens heureux.
Stop.
Exactement. Donc c'est un film sur la vérité qu'on veut pas voir, et c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce film.
Voilà. Alors en fait, on est complètement d'accord, sauf que là où tu dis que c'est tout en subtilité, pour moi c'est tout en lourdeur. Voilà.
Oh là là.
Non mais voilà, je trouve que c'est pas montré subtilement justement. Bon, en tout cas, il faut aller le voir.
Certainement, oui.
Moi, il ne m'a pas déplu.
Et Sébastien Marnier est vraiment, effectivement, avec Irréprochable, un auteur à suivre. Sans aucun doute.
En tout cas, l'heure de la sortie de Sébastien Marnier donc, est programmée à la Nef. On enchaîne avec un autre film français, film social cette fois. C'est Les Invisibles de Louis-Julien Petit.
C'est 8h, pas 7h55. Je sais pas où vous êtes en train de chouiner, là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre.
C'est son pseudonyme, la Ticheline. Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot.
Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça?
Ah ouais, allez.
Vous les chouchoutez trop et c'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% sont arrivés à se réinsérer. On ne peut pas continuer à dépenser sans résultat, on ne peut plus.
Qu'est-ce que c'est que ça? On ne repart.
Chantal, elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider.
Moi, j'étais soignante. Moi, j'ai travaillé dans une agence immobilière.
T'as fait ça pendant combien de temps?
Un jour.
Bah, c'est 24 heures, hein. C'est beaucoup. Temps, c'est beaucoup.
On va vous confronter au monde du travail.
J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi.
Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi?
Non.
Il faut que tu donnes ton vrai nom.
Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari.
Attends, Chantal.
J'aime pas mentir.
Oui, mais tu mens.
Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes.
Non, attends, moi j'ai aucun problème avec les hommes.
Voilà, Audrey, là, elle ment. Et c'est pas grave. Je vais rapporter des luminaires de chez moi.
Comment veux-tu qu'elle soit autonome si tu mâches tout pour elle?
T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu? Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant.
C'est pour les Didi.
C'est la plus moche qui trouve un mec. Il est pas mal aussi là, t'as vu dans le gars.
C'est mon coup de cœur du mois, Les Invisibles de Louis-Julien Petit, les réalisateurs français qui l'ont devé Discount et Carole Mathieu. Alors autant j'avais pas énormément aimé Carole Mathieu et Isabelle Adjani qui jouait une médecin du travail, mais bon, le thème était intéressant. Autant Discount, je l'avais déjà trouvé très intéressant. C'était sur un petit supermarché bas de gamme, Discount, donc dans lequel les employés essayaient d'organiser un marché noir parallèle pour s'en sortir puisqu'ils avaient des conditions de travail difficiles. Donc là, on reste dans le film social, on suit des travailleuses sociale dans un centre d'accueil pour femmes SDF, centre de jour, donc il les accueille pour la douche, pour qu'elles passent un petit moment de détente, qu'elles puissent faire des papiers, mais centre qui n'a pas le droit de les accueillir la nuit, donc elles doivent aller dormir ailleurs. Et c'est un problème pour beaucoup de ces femmes qui ne trouvent pas de place pour dormir ailleurs ou pas dans des foyers pratiques pour elles. Ils sont ou trop loin ou ils sont mixtes et certaines ont subi des violences de la part d'hommes, donc elles ne veulent pas y aller. Et donc les responsables du centre qu'on suit là dans le film vont décider de les accueillir la nuit illégalement. Voilà le point de départ du film où on suit donc le travail de ces travailleuses sociales qui passent vraiment toute leur vie à ça, à essayer d'aider les autres. Pour les incarner, des comédiennes professionnelles, Audrey Lamy, Corinne Maziero, Noémie Lovski, qui sont toutes excellentes. Et à leur côté, des femmes de la rue que Louis-Julien Petit est allé caster dans la rue. Hein, et ces actrices sont, je dis actrices hein, parce qu'elles jouent très bien, mais en même temps, elles sont un peu elles-mêmes, elles sont très naturelles, criantes de vérité. Vous les avez entendues dans la bande-annonce, hein, la petite mamie là, qui a appris à tout réparer en prison et qui répète qu'elle est allée en prison parce qu'elle a tué son mari. C'est une femme qui sort de la rue, justement, qui vient du Nord. On l'entend aussi dans son accent. Elle est très touchante. Donc voilà, c'est un film qui à la fois parle de réalité sociale, de tous les blocages administratifs qu'il peut y avoir, de toutes les difficultés qu'on peut faire aux gens de bonne volonté qui font tout pour s'en sortir. Et puis en même temps, c'est une comédie, on rit dans plein de scènes, même dans des situations un peu malheureuses. Donc moi, j'aime bien ce genre de films sociaux qui arrivent à montrer les choses, mais avec bonne humeur, dont on ne ressort pas déprimé, parce que même s'il n'y a pas d'happy end, hein, c'est pas possible, il y a un message d'espoir, il y a de l'énergie. Et voilà, c'est mon coup de cœur du mois, Les Invisibles, donc. Florence.
Je te suis complètement, hein. Moi, je suis tout à fait en phase. C'est vrai que là, on voit vraiment bien le poids de la lourdeur administrative en France. Il y a aussi, on peut voir aussi c'est assez sous-entendu aussi tout ce qui est délit de solidarité, en fait, où dès que ces femmes qui sont travailleurs sociales dans ce centre et CDD, on leur met des bâtons dans les roues parce qu'elles n'ont pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Mais par contre, elles doivent avoir un taux de remise sur le circuit de ces femmes-là, mais elles n'ont pas le droit de les aider. Enfin, elles n'ont que des infos contradictoires et il faut qu'elles arrivent à obtenir du chiffre avec de l'humain qui est un peu tout cassé, quoi. Donc, faut d'abord qu'elles puissent se réparer. C'est quand même bien ça le problème. Et pour ça, un peu de douceur, un peu d'humain. Et là, c'est ce qui est amené dans ce film. Et c'est vrai que c'est fait avec humour, avec légèreté. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. J'avais peur que ce soit plombant. Et c'est vraiment pas le cas.
Non, et d'ailleurs, le film est en train de cartonner dans les salles. Hein. Je pense qu'il a bénéficié d'un très bon bouche à oreille dans le public. Vous pouvez le voir à Grenoble, au club ou au pâté. On enchaîne avec un biopic, hein, le deuxième de notre programme, centré sur une femme encore, une écrivaine française, c'est Colette.
Je vous présente ma femme, Colette.
Vous avez épousé un écrivain à la peine.
Tu as épousé une petite paysanne sans le sou.
C'est sans espoir. J'ai eu une idée remarquable. Vous pourriez écrire pour moi.
Quoi ?
Les histoires que vous m'avez racontées.
Mes années d'écolière ?
Oui, ce serait mon nouveau roman.
Je m'appelle Claudine. J'habite Montigny. Probablement, je n'y mourrai pas.
Il est déjà parvenu à faire de vous son nègre ? C'est tout ? C'est trop féminin. Plus de piquant, moins de littérature. C'est le plus grand succès que nous ayons connu à ce jour.
Savez-vous qui l'achète ? Les jeunes filles.
Ah oui ?
C'est un phénomène.
Le tout Paris dit que ton mari est un génie.
Madame Colette, j'ai cru comprendre que Willy s'était inspiré de vos années d'écolière.
En effet, j'ai eu le loisir d'apporter ma contribution.
Ce que vous avez fait est très important. Toutes ces jeunes filles, vous leur avez donné une voix.
Quelqu'un vous l'a dit ?
Inutile de l'apprendre par d'autres. Vous rencontrer m'a suffi.
Il vous tournait autour.
Ta jalousie est mal placée. C'est sa femme qui m'intéresse. Voilà.
C'est trop risqué.
Depuis quand considères-tu le scandale comme une chose à éviter ?
Bonté divine, mais que portez-vous là ?
Le nouveau Claudine. Pourquoi ne pas le publier sous nos deux noms ?
C'est hors de question !
Je veux mon nom sur le roman !
Non ! Nous tenons quelque chose d'explosif. Si la situation nous échappe, nous risquons de sauter tous les deux. Écrivez.
Laisse-moi sortir !
Colette, donc, n'a pas été réalisée par un réalisateur français. C'est un film britannique et américain que l'on doit à Wash Westmoreland avec Keira Knightley pour incarner Colette. Elle ne lui ressemble pas du tout, mais bon, elle est très mignonne et très charmante, effectivement. Dominic West, à ses côtés, incarne Willy, son mari. On est en 1893 au début du film, au moment où Colette épouse Willy, qui est un séducteur infidèle, qui emploie des nègres pour publier différents articles, différentes œuvres, et qui va utiliser Colette comme un nègre également, puisqu'il découvre assez rapidement que sa jeune épouse a beaucoup de talent, et il va la faire écrire, la forcer à écrire de manière un peu violente même. Elle va produire ainsi les Claudine, hein, qui sont ses œuvres les plus connues. Donc moi, j'avoue que finalement, pour une auteure française très connue, dont je connais les titres des œuvres, je ne connaissais pas du tout sa vie, je connais même très mal son œuvre, et du coup, le film m'a beaucoup intéressée. Je ne savais pas du tout qu'elle avait écrit dans ces circonstances, que ses œuvres n'avaient pas été publiées sous son nom au départ. Je ne savais pas non plus qu'elle avait une vie sexuelle assez particulière et libérée pour cette époque, avec entre autres des histoires homosexuelles. Voilà, donc le film m'a beaucoup intéressée pour tout ce côté documentaire. Et puis, je trouve que c'est aussi évidemment un beau film féministe, vraiment qui montre un personnage de femme libérée en cette fin 19e, début 20e siècle. Je trouve ça toujours intéressant. Donc, pour moi, c'était plutôt un beau film, bien reconstitué en plus. Jean-Pierre ?
Oui, mais je peux dire exactement la même chose que toi. C'est un bon biopic, très bien fait. Mais je ne sais pas pourquoi Vidocq serait mal fait alors que celui-là serait mieux fait, parce que c'est exactement, ça part exactement du même principe. Une reconstitution soignée, très lisse, effectivement.
Mais bien jouée.
Peut-être un peu trop lisse. Bien jouée, bon, effectivement, on ne peut que tomber à la renverse devant Keira Knightley, mais qui ne ressemble pas vraiment à Colette quand même, qui est un petit peu trop mignonne malgré tout. Alors c'est vrai qu'on voit l'exploitation de la femme par l'homme, l'homme étant son mari, l'homme étant un écrivain qui n'écrivait rien du tout et qui prenait des nègres ou des négresses, une négresse en ce qui la concerne. Mais je suis resté malgré tout un peu indifférent à ça, quoi. C'est tellement bien fait, c'est tellement joli que... Alors, je connaissais un peu la vie quand même de Colette, contrairement à toi, même si je connais pas du tout son œuvre. Donc c'est un film à classer dans le placard un peu poussiéreux des biopics, quoi. Voilà,
ouais,
quoi.
Un peu trop classique. Je comprends, ouais, quand on connaît bien le personnage, qu'on puisse du coup être un peu indifférent. Florence.
Alors, je connaissais pas non plus l'histoire de la vie de Colette, mais du coup, je suis quand même complètement Jean-Pierre. C'est-à-dire que il est. C'est un film, oui, voilà. Enfin, tout est bien fait. On s'ennuie pas, mais néanmoins, il a rien pour marquer les esprits, en fait. Il est, oui, tout est très bien fait, voilà, c'est bien.
Donc le personnage est exceptionnel en lui-même, oui, mais voilà. Pas le film.
Non. Après, ça aurait pu être intéressant de peut-être développer la suite quand elle commence à devenir actrice également, où là, elle commence à prendre son envol, on va dire.
On est un peu frustrés.
Et
d'ailleurs,
ouais,
c'est
le côté qui m'a manqué. J'aurais bien aimé en savoir plus sur ce qu'elle a pu faire par la suite, une fois qu'elle s'est émancipée. Mais
vrai, un film de 3 heures comme réclamation.
Et voilà,
Mais il y aura peut-être Colette 2 pour le retour. Ouais. Autre chose à ajouter ?
Non, ce sera tout.
Il aurait fallu voir le film avec Mathilde Amé devenir Colette et peut-être le téléfilm avec Marie Trintignant aussi pour avoir des points de comparaison. Mais bon. Colette, donc, de Westmoreland, que vous pouvez voir encore au Pathé ou à la Nef. Et on termine avec le blockbuster du mois, c'est Glass de M. Night Shyamalan.
Je m'appelle Ellie Staple. Je suis votre psychiatre. Je suis spécialisée dans le traitement des patients qui se considèrent comme des êtres surnaturels.
Je n'ai rien à faire ici.
David Dunn, vous croyez être doté d'une force exceptionnelle, mais il y a des hommes qui sont aussi forts que vous. Kevin Wendell Crumb, vous croyez que 2 douzaines d'âmes cohabitent dans votre corps.
Appelez-moi Norma.
C'est trop énorme!
Elijah Price, vous avez un QI hors norme. Vous pensez être surhumain. Et si je vous disais que vous vous trompez en réalité?
Il nous abreuve de mensonges. Vous avez été envoyé ici pour être l'ange vengeur. Êtes-vous résolu à accomplir notre vengeance?
Ces individus ont perdu le sens des réalités.
Beaucoup de gens vont souffrir. Ne faites pas ça. Vous pouvez prouver au monde que nous existons. Êtes-vous prêt?
Glass de M. Night Shyamalan est en ce moment sur les écrans, au Cirex, au Pathé, entre autres. Bon, c'est une suite, la suite d'Incassable qui était sortie en 2000 et de Split en 2016, qui était le dernier en date de Shyamalan. Il a repris les personnages des deux, donc le personnage de Bruce Willis dans Incassable, cet homme qui, en touchant les gens sans ce qu'ils ont pu faire, sans les crimes qu'ils ont pu commettre, le personnage de... Samuel L. Jackson, donc, qui est l'homme qui se casse complètement à l'intérieur, hein, Elijah Price. Et puis le personnage de Kevin Crumb, incarné par James McAvoy dans Split. Donc, c'est un petit peu Spider-Man contre Batman, bah, non, je ne sais plus, j'ai n'importe c'est quoi. Mais
Hulk c'est, contre Captain voilà. America, voilà.
C'est un peu ça, enfin, sauf que là, ils sont trois. On les retrouve tous les trois, ils se retrouvent tous les trois enfermés dans un hôpital psychiatrique. Et là, une psy essaye de leur faire admettre qu'ils ne sont pas des super-héros. Voilà en fait le scénario de départ. J'ai un peu du mal à vous résumer le film tellement je ne vois pas son intérêt. Je vais pas vous révéler ce qu'on découvre à la fin, mais alors qu'il est absolument sans aucun intérêt non plus,
bah,
et complètement
rien
invraisemblable
du tout, ouais.
Bon, moi j'ai trouvé que c'était non seulement un mauvais thriller, mais alors un mauvais film d'action, un mauvais film fantastique. Le scénario ne tient pas la route, on ne croit à rien du tout. Comment les trois pires psychopathes de la planète pourraient être gardés simplement par un homme normal, hein, le soir, comme ça, dans cet asile. Homme qui, en plus, bien évidemment, va entrer dans les cellules, hein, sans refermer la porte, tout seul, sans armes, sans rien. Mm-hmm. Voilà, on n'y croit pas une seconde. Et puis, on ne croit pas une seconde non plus à ce qu'a manigancé le personnage d'Elisa Price, que je ne vous raconte pas. Mais bon, j'ai du mal à en parler tellement je suis dépitée par ce film que j'ai trouvé mauvais, mauvais, mauvais. J'ai failli m'endormir. C'est 2h10 d'ennui, mais franchement, voilà, même à part quelques combats qui viennent vous réveiller de temps en temps, mais qui sont sans aucun intérêt également, je vois pas pourquoi Shyamalan a fait ce film.
Ben, on peut dire ça de beaucoup de films de Shyamalan. Hein, pourquoi il fait ces films qui sont de plus en plus mauvais, ou sauf quelques exceptions. Oui. Ben, l'argent, pas sûr, parce qu'il y a beaucoup de ces films qui se sont complètement plantés.
Ouais, mais Split a rapporté plus de 278 millions de dollars.
Alors voilà, il a rebondi avec Split, donc il a peut-être voulu faire une suite pour surfer sur le succès de Split. Mais là, on ne comprend pas effectivement pourquoi ces trois personnages qui viennent de deux films différents sont ensemble. On ne sait pas quel pouvoir ils ont parce qu'ils ne font rien. Les trois quarts du film, ils sont dans leur cellule, dont ils s'échappent avec une facilité dérisoire, comme tu as dit. Ces personnages ne sont pas approfondis, ne sont pas intéressants. C'est des super-héros, des super-méchants, on ne sait pas trop. Quoi. Il y a effectivement une bagarre.
Si, c'est le super gentil et les deux autres sont super méchants.
Pourquoi je veux dire, ouais. Qu'est-ce qu'il a de méchant, Elijah Price, il ne fait rien dans le film. Rien du tout. Et à la fin, ils se bagarrent, effectivement.
Ils complotent pour organiser la fin.
Oui, bah, d'accord, mais que la fin arrive un peu plus vite que ce qu'elle est, que le temps qu'elle met pour arriver. Non, là, j'avoue que je ne comprends pas ni ce film, ni ce qu'il a voulu faire, ni les très bonnes critiques qui l'ont accueilli, parce qu'alors ouais. Là, vraiment, on en tombe de son perchoir. Quoi.
Bon, vous avez compris qu'on ne vous conseille pas d'aller le voir,
hein,
éviter ce film, Glass, de Shyamalan, qui fera peut-être mieux la prochaine fois, mais bon, si vous voulez quand même le voir, je rappelle qu'il passe au Cirex et au Pâté. Pour terminer l'émission, pas de coup de cœur de mon côté, puisque l'Invisible était dans le programme. Jean-Pierre, pas de coup de cœur à part Edmond et le Facteur Cheval.
À part des films dont
on parlera peut-être
la prochaine fois.
La prochaine
tout à
émission.
Fait.
Florence,
non plus.
Non plus. Adrien n'est pas là. Il aurait voulu parler de Dans la terrible jungle, mais nous ne l'avons pas vu. Et on va donc écouter François, qui lui aussi avait quelques commentaires à faire sur notre programme.
Bonjour et à toutes et à tous, chers amis de l'émission Sine Qua Non. Je suis au regret de ne pas être des vôtres encore une fois cette fois-ci, mais je vais vous faire part de mes avis lapidaires par rapport au programme de l'émission de ce mois-ci. Je compte sur vous pour étayer mes arguments et sur Jean-Pierre particulièrement pour être en désaccord total à chaque fois. Alors, dans ce que j'ai vu, il y a L'Empereur de Paris de Jean-François Richer. Ça sauve l'honneur par rapport au Vidocq de Pitoff sur ce sujet qui est parfois passionnant, mais c'est en deçà justement de ce que le sujet mériterait. Aquaman de James Wan, c'est un film qui a essayé de toutes ses forces de me rendre daltonien et j'ai le plaisir de vous dire que ça a échoué. Bumblebee de Travis Knight, moi j'avais adoré le premier long métrage de Travis Knight, Kubo et l'armure magique. Là, j'avoue que je suis pas un très très grand fan des films de Michael Bay, là j'ai trouvé ça mieux, voilà, c'est pas dur. Et j'ai trouvé que ça tombait pas forcément dans la nostalgie années 80 à outrance, mais voilà, ça fait pas forcément un bon film non plus. Unfriending Dark Web, alors j'étais très agréablement surpris, pour le coup, pour ce faux film d'horreur, qui est plutôt un thriller, et qui fait honneur à son prédécesseur, même si le système, je pense, va être assez vite éculé, c'est-à-dire ce principe d'écran d'ordinateur et de tout voir par son biais. Mais pour l'instant, ça tient plutôt la route. Ensuite, on a L'heure de la sortie, qui est un film qui forme un binôme assez intéressant sur les mêmes thématiques avec First Reformed de Paul Schrader. Je me rappelle plus le titre français, mais le dernier film de Paul Schrader avec Ivan Hawke, donc j'ai adoré. Et celui-là, bah, ça s'ouvre d'une interprétation un petit peu plus en deçà, notamment du côté des castings adolescents. Mais ça n'en reste pas moins un film qui m'a vraiment intrigué. Voilà, c'est Sébastien Marnier, c'est un réalisateur à suivre. Son précédent film avec Marina Foy, c'était déjà vraiment très 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 bien. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai vu pour ce mois-ci et qui est à votre programme. Je vous conseille aucun des films qui étaient sélectionnés au Festival du film d'humour de l'Alpe d'Huez parce que c'était très mauvais. On était sur une année absolument catastrophique. Voilà, pour vous donner une idée, le meilleur film, c'était Nicky Larson de Philippe Lachaud. Voilà, qui n'est pas bon, hein, qui est le meilleur film de Philippe Lachaud, mais ça n'en fait pas un bon film pour autant. Et le dernier film que j'ai vu, c'était quoi ? C'était Ralph casse l'Internet. Ralph 2.0, c'est une abomination que je vous déconseille fortement. Si vous avez des enfants, fuyez. Ce film essaye de prostituer leur esprit. C'est absolument imbattable. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, j'espère.
Merci à toi François, bah, l'Empereur de Paris et l'heure de la sortie, on est assez d'accord avec toi dessus, on l'a dit. Et puis Aquaman, Bumblebee et Unfried de Dark Web, Jean-Pierre les a vus.
Ben, je les ai vus, c'est vrai qu'Aquaman c'est un très bon spectacle de 2h30 avec des effets spéciaux sidérants sur des créatures marines extraordinaires. Si on aime les blockbusters d'après les comics, les blockbusters super-héros, celui-là est très bon et en plus assez original puisqu'effectivement c'est un homme qui vit sous la mer. Moi je suis bien d'accord avec François, c'est
voilà.
Un
contrairement à ce qu'il pensait.
Oui, tout à
et
fait.
Puis Bumblebee et...
Bumblebee, c'est un film de robots géants bon, qu'on a vu 10 fois, qui peut être vu, mais qui n'est pas terrible. Voilà. Moi, contrairement à lui, je préfère les versions de Michael Bay que celle-là. Quant à Dark Web, non, alors là, je n'ai pas du tout aimé. C'est un... voir sur un écran, pendant 1h30, des écrans d'ordinateur avec des plans fixes de gens qui tapent. Je vois pas vraiment l'intérêt, quoi. À part une ou deux scènes d'horreur suggérées, je vois pas l'intérêt.
Et ben voilà, François, t'auras eu ton opposition sur ce film de la part de Jean-Pierre. Merci à vous tous d'avoir été là ou de nous avoir fourni vos avis. Et merci à vous qui nous écoutez aussi derrière votre ordinateur ou votre poste de radio. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau volet de Ciné Qua Non.
Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma, sinon rien.